Et forcément, on en parle de la santé, mais du sport aussi. Demain soir, pour le compte de la 26e journée de Pro D2 au stade Guy-André Boniface, le stade Montois Rugby 10e, au classement, aurait dû affronter le Biarritz Olympique 6e qui devance les Montois de 8 points. Sauf que, j'ai pas besoin de finir ma phrase. Le dernier match des Jaunes et Noirs, il remonte au 3 mars dernier. C'était à Rouen. Ça s'était soldé par une victoire des Landais. Depuis, comment ça se passe? Quel est l'état d'esprit des joueurs qui ne savent officiellement toujours pas à quel sein se vouer, rumeurs, infos, désinfos, contrats, transferts, conditions physiques. Aussi, on ne peut pas trouver meilleur expert que leur préparateur physique, justement, entre autres au champ d'action. Par ailleurs, élargi, c'est Patrick Millet qui est avec nous par téléphone. Patrick, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, Broca? Dis-moi, on va se tutoyer, ça va être plus simple.
Oui, on va se tutoyer.
Oui.
Écoute, Broca, ça va très bien. Ça va
oui.
Très bien.
Est-ce qu'on
plus qu'au mot de Marsan, ça va comme au mot de Marsan, ça va. On a quand même, c'est une région où on est privilégié malgré tout.
Oui, à tous les à bien des égards. Patrick, je dérange en plein travail, si j'ose dire, ou télétravail. C'est comme ça que tu officies le matin?
Oui, c'est le matin. Disons que moi, mes journées elles sont partagées entre mon ami et moi-même déjà parce qu'il y a l'éducation des enfants, il y a des cours pour faire pour les enfants. Puisque j'ai deux petits de 7 et 11 ans, donc eux qui ils reçoivent aussi les devoirs, donc il faut qu'on se partage le travail. Donc la majorité du temps, la matinée m'est consacrée pour que je puisse avancer dans le projet du Stade Montois, faire le suivi des joueurs.
Alors justement, toi tu dois les avoir, j'imagine, une grande partie, téléphone ou par la toile. Comment ça se passe concrètement depuis le 3 mars Parce qu'on sait pas où on va, on sait pas où on est dans un premier temps, et je crois qu'il y a eu des programmes d'entretien. Comment tu as travaillé exactement?
Oui, ils ont tous des programmes d'entretien. Déjà, bon, j'ai appelé les joueurs un par un, déjà pour savoir dans quelles conditions ils étaient confinés, s'ils étaient restés sur Mont-de-Marsan, s'ils sont en appartement, s'ils sont dans une maison avec un peu plus ouais. De terrain, s'ils sont un peu à l'extérieur, s'ils peuvent aller courir dans les bois. Donc à partir de là, on a, avec les deux autres préparateurs physiques, Lilian et Mathieu, on a établi des programmes d'entraînement adaptés. Donc bon, mais malheureusement au poids du corps, quoi. Bon, il y a quand même beaucoup de choses à faire au poids du corps, avec une priorité sur la réathlétisation, parce que la problématique aussi, c'est que là, on avait des joueurs blessés. Ces joueurs blessés n'ont pas accès non plus aux soins médicaux, puisque les kinés. Les seules interventions qu'ils ont le droit de faire, c'est s'ils vont vraiment que ça soit des interventions, que ça soit vital. Alors comment, je veux dire, une entorse d'une cheville ou un problème musculaire n'est pas une priorité aujourd'hui. Donc au départ, nous avons fait du télétravail où chaque joueur a appelé le médecin. Le médecin a donné des consignes prioritaires. Au préparateur physique, et ensuite les préparateurs physiques, qui est Mathieu Bon, appellent les joueurs en cours de réathlétisation pour leur donner un travail bien spécifique en corrélation avec le kiné, avec des vidéos pour les différents exercices, et le joueur doit, dans la mesure du possible, se faire filmer, renvoyer son travail. Ça, ce sont vraiment le travail, la priorité sur nos joueurs blessés. Et ensuite, effectivement, ouais. Il y a le groupe valide. Pour le groupe valide, on a fait des programmes d'entraînement avec des poids du corps, pompe, traction, tout ce qui est core training, c'est-à-dire tout ce qui est abdos, lombaires. Un travail également sur la prophylaxie et de la course à pied. Bon, après, la course à pied, au départ, c'était assez libre. Maintenant, c'est un peu plus restreint. Donc on essaye de faire des courses en navette avec un enchaînement de tâches.
D'accord, ça c'est pour ce qui est du plan physique avec le confinement, c'est déjà dur, on peut l'imaginer, pour pas faire de gras notamment, mais il y a aussi l'épuisement, il y a un épuisement psychologique qu'on peut imaginer chez les joueurs, je pense aussi aux joueurs étrangers, aux Iliens, et puis c'est de ne pas savoir depuis 23 jours de quoi demain sera fait, s'il y aura reprise ou pas. On pense aussi aux joueurs qui sont en fin de contrat ou qui étudiaient peut-être un transfert avant la crise sanitaire. Comment ça se gère ça aussi, ce qu'il y a dans la tête des joueurs?
Bon, quand je les ai eu au téléphone, justement, je leur fais comprendre. Moi, depuis le début, j'avais déjà compris que ce confinement allait durer. En aucun cas, je n'ai cru le gouvernement qui avait annoncé 15 jours de confinement. Dans ma tête, j'avais déjà préparé une planification minimale sur 6 semaines. Donc j'avais déjà anticipé, téléphoné aux joueurs, et quand j'ai eu les IA, la chance des IA, c'est que la plupart sont en famille ici, donc ils ont des maisons, ils ont un peu de terrain. Ensuite, pour avoir échangé avec un groupe de joueurs, notamment les joueurs qui étaient en fin de contrat et qui ont été reçus par télétravail, pareil, comme quoi ils n'étaient pas gardés pour la saison prochaine. Alors eux, ça pose vraiment un problème parce que tous les clubs n'ont aucune visibilité par rapport à leurs différentes ressources pour l'année à venir. Donc le recrutement est plus ou moins gelé dans la majorité, voire la totalité des clubs. Donc ces joueurs-là n'ont aucune visibilité dans leur avenir, quoi.
On évoquait même cet ascenseur émotionnel d'un jour à l'autre. C'est un peu comme avec l'actualité. Mercredi, on avait Bernard Laporte, donc en visioconférence, le président de la Fédé française, qui, selon ses infos et ses réunions avec World Rugby, a annoncé une reprise pour janvier 2021. Du tac au tac, on avait le président de la Ligue, Paul Gosse, qui lui répondait que ça servait à rien de se projeter, de jouer la montre un petit peu, en disant tout simplement on va attendre 3 semaines supplémentaires de réflexion. Hier soir, on a appris donc que les présidents de Top 14 et de Pro D2 avaient voté le fait qu'en cas d'annulation de la saison en cours, les clubs démarraient l'exercice à 2020-2021 à zéro, mais peut-être en janvier. Enfin, comment on fait votre avis, enfin ton avis là-dessus, Patrick?
Mon avis, déjà, c'est que effectivement la saison 2019-2020, je pense qu'il faut l'oublier. Il faut l'oublier sur le plan comptable, sur le plan sportif. Maintenant, effectivement, la majorité des présidents souhaitaient que le championnat reprenne par rapport à leur budget, par rapport aux ressources qui rentrent dans les différents clubs. Donc effectivement, ça c'est une grosse problématique. Aujourd'hui, je crois qu'en France, il y a 630 000 entreprises qui ont déposé une demande du chômage partiel. C'est quasiment entre quasiment 7 millions de personnes. Ouais. Donc tu comprends bien que le club, pour qu'il puisse vivre, notamment Mont-de-Marsan, qui a des petites ressources, on avait besoin de ces 4 matchs à la maison. Donc chaque président prenait pour sa paroisse et souhaitait que le championnat reprenne, notamment sur le plan financier. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la pandémie prend de l'ampleur, mais également sur les différents continents. Donc oui, dans la porte, il a annoncé que au pire, les championnats, les différentes tournées et les matchs internationaux reprendront que janvier 2021, parce qu'il faut déjà y avoir une réflexion sur comment se déconfiner. Ouais. Parce que le jour où on sera plus, ils diront que ce ne sera pas feu rouge, feu vert, c'est-à-dire aller tout le monde dans la rue, aller célébrer le Marsan, on se retrouve tout dehors. Donc non, il y aura certainement tout un protocole à respecter. Donc déjà un protocole à respecter à l'intérieur du territoire national, qui risque d'être déjà compliqué, puisqu'il y a une grosse réflexion qui est faite au niveau du gouvernement à ce sujet. Ils ne savent pas comment l'établir, s'ils le font par région, par département. Et alors, tu penses bien qu'intercontinent, c'est encore plus problématique, quoi. Donc, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vraiment la priorité, c'est la reprise du championnat? Oui, pour le bien du rugby, mais c'est avant tout la santé, ouais, santé générale, la santé mondiale de préserver l'humanité, quoi.
Il y a le nerf de la guerre, hein, qui est notamment les droits télé. Est-ce que... Voilà, ça a été agité au tout début de la crise sanitaire. Imaginez des huis clos de ces matchs. On parlait de la santé des joueurs. Ça voudrait dire que si ça devait reprendre, oui, les matchs se joueraient en rythme effréné. Pour la santé du joueur et la santé tout court, c'est totalement, ça est totalement injouable.
Injouable. Apparemment, Canal Plus resterait quand même sur le droit télé, resterait fidèle au rugby, puisqu'ils avaient le rugby, ils laisseraient tomber la ligue de foot, mais resterait quand même fidèle auprès du rugby, quoi. Donc bon, maintenant je ne vois pas l'intérêt de réaliser des matchs à huis clos. Ouais. Avant tout, le rugby, c'est la gaieté, l'amitié, c'est tout ce qui se construit autour du match, quoi. Donc faire des matchs à huis clos, je ne vois pas l'intérêt, si ce n'est effectivement de pouvoir dire telle équipe monte ou telle équipe descend. Donc bon, les présidents de club, ils ont voté que cette année, ça sera une année blanche, il n'y aura pas ni de montée ni de descente. Je pense que c'est la bonne décision.
Je précise, alors selon les informations de Midi Olympique, que le Stade Montois ferait partie des clubs donc, qui auraient voté contre justement... Pour les raisons, on demandera peut-être justement au président Jean-Robert Cazaux, justement, pour l'avenir du stade. Je te le demande, pour ce qui est de, pour toi, ton avis, est-ce qu'on va pas vers une grande casse du rugby français au regard de comment le ballon s'est gonflé, des entreprises qui ont investi, enfin, comment le rugby est devenu sport majeur en quelques années, encore plus majeur?
Bien sûr que ça va avoir une grande place. Je pense que le ballon, il a tellement gonflé qu'à force de le gonfler, il peut crever, quoi. Donc je pense qu'il va se passer. Ça va plus une ampleur, notamment sur l'aspect des salaires, des joueurs de 2-14, des jeunes joueurs pour aller chercher des cachets entre 8 et 10 000 euros alors qu'ils n'avaient rien prouvé, tout ça parce qu'ils avaient quelques caps chez les jeunes. Donc effectivement, le rugby avait pris une ampleur phénoménale et il continuait à se construire vraiment autour de la télé, de Canal, d'Eurosport, ça monte en puissance, c'était vraiment événementiel, des stades remplis avec beaucoup d'activités autour. Donc on essayait de se rapprocher du foot, malgré tout on en est encore loin, mais effectivement à côté de tout ça, les joueurs prenaient une cote vraiment démesurée où nous, club de Pro D2, et notamment Mont-de-Marsan, on avait du mal à suivre cet aspect-là, quoi. Donc peut-être que ça va remettre un petit peu les pendules à zéro et repartir sur de bonnes bases. Mont-de-Marsan, comme d'habitude, travailler énormément sur la formation et essayer de pérenniser ce club dans les meilleurs clubs français, parce que ça c'est quand même un objectif qu'on doit non seulement atteindre, mais qu'on doit vraiment se fixer, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que le rugby, effectivement, va un petit peu descendre quelques échelons de l'échelle là.
Est-ce que c'est pas forcément comme ça peut l'être dans d'autres registres économiques, c'est pas forcément les petits qui vont trinquer en rugby?
Non, pas forcément, je pense pas, parce que quand je vois le Stade Toulousain qui demande une baisse de salaire de 25%, effectivement, ils sont basés sur la billetterie, ils ont plein de ressources autour, fait que ben, aujourd'hui, même le Stade Toulousain peut être un club fragile. Nos salaires sont relativement moyens et Jean-Robert est un expert de sa chef d'entreprise. Jean-Robert, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Ça fait des années que la DNACG nous a oubliés, le gendarme financier nous a complètement mis de côté. On n'entend plus parler de Mont-de-Marsan sur les finances.
Ça n'a pas toujours été le cas,
on n'a pas parlé Mont-de-Marsan sur les phases finales.
Ouais.
Donc c'est déjà un point très positif. Je ne pense pas que Mont-de-Marsan soit en danger, parce que c'est pas un club qui a investi à tort et à travers. Donc je fais confiance, entièrement confiance à Jean-Bert dans sa gestion.
Merci beaucoup en tout cas, Patrick Millet, d'avoir pris quelques petites minutes. Je pense j'espère en tout cas qu'on pourra se revoir bientôt pour deviser de tout cela. Il y a quelques mois, Patrick, on parlait de cette saison 2019-2020 comme une saison de transition. On pensait pas si bien dire là pour le coup. Hein.
Ben oui, c'est plus qu'une saison de transition, puisqu'on a eu des difficultés sportive avec des résultats vraiment qui avaient des hauts et des bas, on n'avait pas de régularité, nouveau projet, nouvel entraîneur. Bon, c'est vrai que quand on change des entraîneurs, il y a toujours une année un peu de battement. C'est ce qui s'est passé la première année avec Christophe Roussuc aussi.
Oui.
Donc c'est une année transitoire. Écoute, si réellement cette année doit être classée une année blanche, on va signer de suite, mais surtout que ça nous serve de leçon, parce que le Stade Montois mérite d'être dans les 20 premiers clubs français, donc il faut que le Stade Montois perdure.
Merci beaucoup, Patrick Billet. Saluez tout le monde, enfin, saluez votre entourage déjà du côté de Broca et les copains jaunes et noirs par la même occasion. Merci beaucoup, Patrick.
Je te remercie, bonne journée.
Adichat, merci.